un autodidacte. Exact.
Autodidacte, c'est des contrats.
Autodidacte, c'est des contrats.
Grâce à Autodidacte, on a la patate.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la radio Autodidacte. Ici, on est libre comme l'air, c'est pour ça que vous allez trouver plein de choses différentes. Mais avant de passer à l'émission, je vais vous présenter la radio. Tout d'abord, c'est une radio qui se trouve au centre de jour Antonin Artaud à Reims. Elle a été créée par une stagiaire interne en psychiatrie et une journaliste qui s'est reconvertie pour devenir psychologue. Cette radio est animée par des patients. Malgré ce qu'on peut croire, c'est pas parce que la radio se trouve dans un lieu de santé mentale qu'on va parler que de ça. On est une radio riche et variée qui parle de la joie, de l'espoir, du désespoir, de l'amour, un peu de politique et surtout de la vie.
C'est Autodidacte et Léa va vous présenter l'émission d'aujourd'hui.
Pour cette nouvelle émission, nous avons choisi de vous parler de la figure de l'étranger telle que nous pouvons nous la représenter en l'abordant dans sa dimension culturelle. Dans le contexte difficile où la guerre est de plus en plus présente dans l'actualité et nos discussions, nous avons préféré discuter des différences qui nous rassemblent. Dans une culture où on essaye de nous uniformiser, cherchons plutôt à porter des teintes joyeuses aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Bravo !
Tout d'abord, un poème de Céane.
Écrire sur l'étranger, c'est comme s'ouvrir sur le monde. On ne sait pas ce qu'on y trouvera, de bonnes ou de mauvaises ondes. Ça fait peur de ne pas connaître, mais un jour je t'enverrai cette lettre où je parlerai de moi et surtout de toi, car tu es ce qui la rapproche le plus de mon être. Nous sommes si différents, de chaque trait de ton visage à ton langage, et je clôture cette lettre en te disant que nous sommes si éloignés l'un de l'autre et proches à la fois. Que ces murs qui nous séparent n'attendent juste d'être brisés, car nous formons une fraternité.
Alors maintenant, on va parler de la country.
Alors bonjour à tous et à toutes. Nous commençons par les origines de la musique country aux États-Unis. Avant, tout d'abord, je voulais vous dire que c'est une musique qui me touche beaucoup. Avant de connaître ses origines, etc., je me sentais attiré et inspiré par cette musique. Et en ayant travaillé et fait des recherches pour la country et pour les origines de cette musique, elle me touche encore plus. Alors, il faut savoir que la country moderne qu'on connaît maintenant, elle date des années 1920. Et ses racines, elles plongent bien plus loin que dans l'histoire américaine. Parce que, en fait, la country, c'est un fruit, c'est la combinaison des influences européennes, africaines et des Indiens d'Amérique. Alors, tout d'abord, les influences européennes. Les premiers colons européens, notamment des Écossais, des Irlandais et des Anglais, ils ont apporté des ballades folkloriques, des chants religieux et des danses traditionnelles. Et puis, ils ont utilisé aussi des instruments comme le violon, la guitare, et pour les origines africaines, le banjo qui est une sorte de guitare. Alors, par rapport aux influences afro-américaines, on peut dire que les esclaves ont apporté beaucoup à la country parce qu'ils ont ramené l'instrument qu'on appelle banjo. Et en fait, ils ont aidé aussi à la country par des rythmes saccadés qui ont enrichi la musique traditionnelle américaine. Et en plus, ils ont apporté aussi des styles de musique comme le blues, qui s'est développé par les Afro-Américains, et ça a influencé des thèmes et des sonorités de la country. Alors, si on peut s'intéresser plus précisément sur les origines afro-américaines de la country, alors, on peut dire que l'apport des esclaves sur cette musique a été très important. En réalité, c'est souvent sous-estimé parce que quand on entend, quand quelqu'un vous parle de country ou des États-Unis, vous pensez pas aux esclaves noirs américains qui ont donné une petite touche à cette musique. Mais en fait, l'influence qu'ils ont eue, ça a façonné le son, le style de la country et dès ses débuts. À travers des instruments, des rythmes et des techniques vocales. Si on s'intéresse beaucoup plus près au banjo, vous savez la guitare africaine qui a été ramenée par les esclaves. En fait, c'est un héritage africain. Et le banjo aussi, c'est l'influence la plus directe sur la country, car c'est un instrument, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est dérivé des luttes d'Afrique de l'Ouest, les luttes LUTHS. Et elle a été introduite aux États-Unis par les esclaves dès le XVIIe siècle. Alors, dans les rythmes et techniques vocales, les esclaves, ils ont apporté des rythmes syncopés, des techniques vocales expressives, notamment le call and response, c'est-à-dire la question-réponse. Par exemple, je ne sais pas, quand vous voyez les Noirs américains ou les esclaves qui disent, je ne sais pas, il y en a un qui dit comment tu t'appelles, il y en a un qui dit bonjour, et l'autre qui répond je m'appelle, vous voyez, ils se répondent comme ça en se parlant, et ça a été aidé dans la country par les esclaves. Par exemple, ça a été couramment utilisé dans les chants de coton et les cérémonies religieuses. Et ce style, il s'est intégré dans les ballades, les chants folkloriques américains. Et en fait, la country, c'est un croisement avec le blues, par exemple. En fait, le croisement avec le blues est né dans les communautés afro-américaines. Le blues également a influencé aussi la country. Ils ont des thèmes similaires comme la vie dure, la tristesse et la survie aussi. Alors pour conclure, je pourrais dire que la country est un mixage, un métissage de plusieurs origines et qui a formé un peu la musique d'aujourd'hui.
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night.
Vous venez d'écouter Miles Smith, dont la chanson s'appelle Nice to Meet You. Et ensuite, nous allons continuer avec Frédéric.
Frantz Fanon, homme noir, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France en Martinique et mort le 6 décembre 1961 aux États-Unis. Frantz Fanon a eu une influence majeure en France, bien que celle-ci ait évolué au fil du temps et se manifeste de manière plus forte dans certains milieux intellectuels, politiques et militants. Voici les grandes lignes de son influence en France. Tout d'abord, une influence intellectuelle et académique, avec une notion de décolonisation de la pensée. Fanon est l'un des penseurs majeurs de la décolonisation. Ses ouvrages, notamment « Peau noire, masque blanc » paru en 1952 et « Les damnés de la terre » en 1961, ont profondément marqué les milieux universitaires, en particulier en philosophie, sociologie, psychologie et études postcoloniales. Deuxième point d'influence académique, c'est au niveau de la philosophie et de la psychanalyse. En France, Fanon a enrichi le débat sur l'identité, le racisme et l'aliénation à travers une relecture critique des théories de Hegel, Freud, Sartre ou Lacan. Il a influencé des penseurs comme Gilles Deleuze, Félix Guattari et Étienne Balibar. Il a aussi laissé des empreintes importantes dans le militantisme et sur le plan politique, avec premièrement des mouvements antiracistes et anticoloniaux. Dans les années 1960-70, Fanon est devenu une figure importante dans les milieux d'extrême gauche, auprès des mouvements comme le mouvement des travailleurs arabes ou des groupes maoïstes et tiers mondialistes. une réappropriation contemporaine depuis les années 2000. Ses écrits sont redécouverts par des nouvelles générations d'intellectuels, de militants antiracistes, notamment dans les mouvements comme le comité Adama, le Front des Mères ou La Vérité pour Naël. Fanon est vu comme une figure pionnière de la critique de l'État postcolonial français et du racisme systémique. Il est même en ce moment à l'affiche d'un film, Frantz Fanon. Frantz Fanon nous a laissé un héritage ambivalent. Il a longtemps été marginalisé dans le paysage universitaire français dominant, surtout à cause de sa critique virulente du colonialisme français et de la violence qu'il justifie dans certains cas comme moyen de libération. Mais aujourd'hui, son œuvre est de plus en plus étudiée dans les universités et traduite ou retravaillée dans les milieux artistiques, littéraires et militants. Et de la violence qu'il justifie dans certains cas comme moyen de libération. Mais aujourd'hui, son œuvre est de plus en plus étudiée dans les universités et traduite ou retravaillée dans les milieux artistiques, littéraires et militants.
Quentin a réfléchi et il nous livre sa réflexion.
Alors, j'ai beaucoup réfléchi pour l'émission d'aujourd'hui. Parler de la figure de l'étranger est toujours délicat, puisqu'elle participe de notre représentation du monde et particulièrement de ce que nous ne comprenons pas en nous. D'ailleurs, de la mettre au singulier ne me semble pas évident. Au singulier, je l'entends un peu comme une figure qui serait support des figures de l'étranger et peut-être de l'étrange dans un sens plus général. Un truc qui représenterait tout un tas de figurations de l'étranger, telles qu'on se le représente et donc telles que nous le percevons en nous. La première qui m'est venue, c'est le cri d'Edvard Munch, dont j'avais lu un commentaire par Lacan. Et je me suis dit que ce serait intéressant de reprendre une histoire de la figuration de l'étrange. Je vais me concentrer sur le modernisme, l'art contemporain et le post-modernisme. Le modernisme commence au milieu du 19e siècle, notamment en Catalogne, et plus précisément à Barcelone, et connaît une croissance rapide, un renouveau culturel important à cette époque, et s'étend jusqu'au milieu du 20e siècle. Ce mouvement a introduit de nouvelles façons de voir et de comprendre l'étrangeté. Les artistes ont commencé à se concentrer sur l'individu, en particulier les figures isolées, les étrangers dans la société, souvent comme des métaphores de la modernité elle-même. Avec le changement rapide des sociétés industrielles, des artistes ont essayé de représenter l'expression des sentiments d'isolement et de déshumanisation. Par exemple, dans le cubisme de Pablo Picasso ou de Georges Braque, déconstruit les objets et les visages, les rendant presque étrangers. Les portraits d'Edvard Munch comme Le Cri capturent l'angoisse d'un individu perdu et étranger dans un monde qui lui échappe. L'art contemporain, à la fin du XXe siècle à nos jours, continue d'explorer la figure de l'étrange, de l'étranger, de l'altérité et de l'exclusion, en transgressant les codes de l'art tels qu'ils étaient pensés dans l'art moderne et l'art classique, en s'appuyant sur d'autres champs comme la sociologie ou autres, et en développant d'autres médias comme les performances. Par exemple, Ai Weiwei, un artiste et activiste chinois, est devenu une figure emblématique dans la défense des droits humains et des libertés fondamentales. À travers ses œuvres d'art comme l'installation Sunflower Seeds, il dénonce les abus du pouvoir, la censure et la répression en Chine, tout en militant pour la liberté d'expression à l'échelle internationale. Il traite des thèmes de l'exil et de réfugiés à travers des œuvres provocantes telles que Refugee Art, en critiquant les systèmes politiques, notamment la question des droits des étrangers et des réfugiés à travers le monde. Il a écrit un manifeste traduit en français « Dans la peau de l'étranger » en guise de manifeste. Le postmodernisme, enfin, de 70 à nos jours, a continué à jouer avec les notions de représentation et d'identité, souvent en mettant en avant des perspectives non occidentales ou marginalisées. L'étrangeté est parfois utilisée pour contester les notions d'identité homogène et d'histoire officielle. Les artistes postmodernes interrogent ce qui est étranger et qui décident de ce qui est étranger. Par exemple, Jean-Michel Basquiat, avec ses peintures vibrantes et ses critiques sociales, a souvent intégré des références à sa propre identité de descendant d'Haïtien, vivant en tant qu'artiste noir dans un monde majoritairement blanc. Il a abordé des thèmes comme l'injustice sociale, la pauvreté, la race et l'identité. Son œuvre était souvent un commentaire sur l'oppression des Afro-Américains et la marginalisation. Il utilisait ses toiles pour explorer des récits de pouvoir, de hiérarchie sociale et de résistance, ce qui a ajouté une dimension politique importante à l'art contemporain. Il traite la question de l'étrangeté et de l'appropriation culturelle avec une forte énergie. Donc voilà, c'était les trois courants avec trois exemples que je voulais vous donner. Et puis j'espère que ça va cheminer pour moi et que je vais continuer à pouvoir y réfléchir.
Bonjour à tous, d'abord, pour expliquer ma religion gambienne, excusez-moi, la culture gambienne est un pays musulman où il y a la musique et l'un des arts les plus importants dans la région du déplacement. Alors, la question, quelle est la culture gambienne? C'est une tradition forte avec les djola, mais aussi les bounou, les pun, du foulado, bala, manda, de Sénégal et la Gambie. Les saucés entretiennent la tradition animiste rituelle la plus forte dans le pays, celle de l'initiation des jeunes garçons au passage à l'âge adulte. Quelle est la religion de la Gambie? La population de la Gambie est musulmane à 90%. Quel est le plat national de la Gambie? Le Benassi est le plat national. Il se compose de riz additionné, de poissons et de légumes. Il existe deux variétés, le tiep kombé à la sauce tomate et le tiep wek sans tomate. Également réputé le yassa de poulet, constitué de poulet grillé mariné dans une sauce aux oignons et au citron. Qu'a-t-il d'étrange à propos de la Gambie? C'est le plus petit pays d'Afrique continentale. La Gambie est située sur les rives du fleuve Gambie, sur la côte d'ouest de l'Afrique, entourée par le Sénégal. Son territoire est incroyablement étroit, mesurant moins de 48 kilomètres de largement à son point le plus large. Comment est la vie en Gambie? Le coût de la vie en Gambie est 53% moins élevé qu'en France. Le pouvoir d'achat local est cependant 94% moins élevé. En voyage, prévoyez un budget sur place de moins de 63 euros par jour et par personne. Quelle est la langue la plus parlée en Gambie? Le mandinka, mandinka est parlé par 38% de la population. Le peuple par 21,2%, le wolof par 18% et le djola par 4,5%. D'autres langues sont également parlées comme le français du fait de l'enclavement du pays au sein du Sénégal. Nature et environnement Gambie. Rappé pour un vrai changement en Gambie. Cette cérémonie s'appelle Kangourang et elle est classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 2005. Cette cérémonie est associée au rite de la circoncision des garçons et sert à protéger des jeunes d'hommes car il y a toujours eu des décès inexpliqués. Elles se déroulent pendant 30 jours, souvent avant le ramadan. Merci de m'avoir écouté et à très vite, Inch'Allah. Ceux qui veulent visiter le pays, il n'y a pas de souci. Vous êtes invités pour découvrir le pays.
Et c'était Fanta avec son expérience sur la Gambie. Et Céline va nous parler de la Martinique.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la Martinique. Alors, tout d'abord, la Martinique, où est-elle située? Dans l'hémisphère nord, entre le tropique du Cancer et l'Équateur. Elle est la deuxième plus grande île des Petites Antilles et est bordée par l'Atlantique à l'est, à l'ouest, les Caraïbes. Depuis 1946, elle est un département français d'outre-mer et garde des liens étroits avec la France, comme la monnaie, la langue et une partie de la culture. C'est une île volcanique et frappe par la variété de ses paysages dignes de cartes postales. Ici, les forêts tropicales côtoient les montagnes abruptes, les falaises déchiquetées bordent les plages tranquilles, etc. En bref, une île au contraste important et aux paysages riches de diversité. Son climat, du soleil à foison, des épisodes pluvieux intenses, un air sain et de la chaleur en toute saison. La saison sèche de décembre à avril et la saison humide de juin à novembre. Température donc très chaude et des épisodes pluvieux courts mais impressionnants. Le plat typique est le colombo de poulet. Il s'agit d'un poulet qui est mariné dans un mélange d'épices appelé colombo, comprenant entre autres du curcuma, du cumin et du piment. Le fruit emblématique, ce sont les mangues, qui ont des formes et des couleurs de saveurs très particulières. En effet, la délicieuse mangue Julie ovale, aplatie, de couleur vert pâle et rouge, possède une chair jaune, très prisée, pour son goût pur sucre et sa chair non fibreuse. Le dessert traditionnel, c'est le blanc manché coco, très facile à préparer. Il se compose de lait concentré sucré, de lait de coco, de gélatine, de cannelle, de vanille et de citron vert. Quant à l'animal emblématique, il s'agit du colibri. Elle a aussi une richesse de sa faune, en mer notamment. Il y a des myriades de poissons, des crustacés, des dauphins et des tortues. Les fruits et légumes antillais. Le plus populaire se nomme le giromon. C'est un légume vert. On peut en faire en velouté, en crème brûlée, en tarte tatin, en muffin, en beignet sucré et salé, etc. La Christophine, il s'agit en fait de... On peut la faire en gratin, en salade, en velouté, en poêlée aux crevettes et au porc, et même en dessert. La tarte fine, le gâteau au choco, les tartes amandines, la confipote. Ensuite, il y a la papaye verte. On peut la faire en gratin aussi, en velouté. Le dessert papaye au lait, par exemple. Et le parmentier de papaye, les acras de papaye verte, les palets de papaye et des poulets fumés en entrée. Je vais donc m'arrêter là, car je pense vous avoir fait déjà pas mal saliver, j'espère. Et puis avoir donné peut-être envie d'aller faire un petit tour là-haut pour en découvrir beaucoup plus, car je ne vous ai donné qu'un petit aperçu de ce qui existe là-haut.
Camerounaise. Je vais parler de malade mentale comme nous sommes ici là. Parce que la façon dont je suis accueillie ici, c'est différent de chez moi quoi. Il y a des malades qu'on enchaîne. Moi, avec les chaînes, il n'y a personne pour les traiter. C'est ça qui m'a beaucoup touchée. Que je voudrais vous dire aussi, parce que la façon dont moi j'ai été accueillie ici, j'ai commencé par la clinique. J'ai fait la clinique 3 semaines. Après, on m'a envoyé ici. Mais l'accueil est beaucoup plus chaleureux encore avec tout le monde ici, là. Tout le monde. On ne dirait pas que nous sommes des malades. On dirait que nous sommes aussi des infirmières, des docteurs. Tout est mélangé. Voilà. C'est pour ça que pour les malades, moi-même, je suis malade. Mais ce dont je vis, c'est différent des autres. Parce que dans mon pays, il y a des malades qui traînent avec des chiens partout. Quand ils sont à l'hôpital, il n'y a personne pour les aider. Quand tu es déjà malade, c'est fini pour toi. Même la famille t'abandonne. C'est pour ça alors que je voulais dire merci à la façon dont on m'a accueilli ici. Il y avait une jeune fille qui m'a accueilli depuis la clinique. Elle s'appelait Anna. C'est elle qui m'avait accueilli, c'est elle qui m'a fait venir ici avec ma famille. Anna n'est plus ici maintenant. Elle est, je ne sais pas.
En Belgique.
En Belgique, voilà. Mais après Anna, il y a d'autres que j'ai eu ici là, qui m'ont aussi accueilli comme Anna. Les hommes comme les femmes sont les mêmes ici là.
Après ce témoignage poignant, nous allons découvrir les Baoulés.
Donc aujourd'hui avec Marie-Laure, on aimerait vous parler du peuple Baoulé, qui est un peuple habitant en Côte d'Ivoire. Et si on vous en parle, c'est parce qu'on a fait le rapprochement entre nous, nos fêtes de Pâques ici en France. Et vous verrez que justement, ils ont aussi la culture de fêter Pâques, mais d'une autre manière vraiment dansante et créative dans les villages.
La Côte d'Ivoire est un état situé en Afrique, dans la partie occidentale du golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro. Mais la quasi-totalité des institutions se trouve à Abidjan. Son principal centre économique, sa langue officielle est le français, mais quelques 70 ethnies et langues sont présentes. Les Baoulés sont un peuple de Côte d'Ivoire vivant pour sa grande majorité au centre du pays, dans les villes de Boaké et de Yamoussoukro, mais aussi dans quelques villages. Les Baoulés font partie du groupe Akan et sont originaires du royaume Ashanti, situé dans le Ghana actuel. Malgré une longue répartition, les populations Akan possèdent plusieurs caractéristiques communes. Leur langue fait partie d'un groupe tano-central. La parenté est bilinéaire, succession matrilinéaire. Les Baoulés sont installés en Côte d'Ivoire au XVIIIe siècle, guidés par la reine Abla Poukou. Abla Poukou est une reine africaine ayant vécu au XVIIIe siècle. Elle mène le peuple Baoulé du territoire à l'actuel Ghana vers celui de l'actuelle Côte d'Ivoire. La légende raconte qu'elle aurait sacrifié son fils unique pour traverser une rivière. Le nom Baoulé, pour lequel on désigne désormais les descendants du peuple qu'elle conduisait, provient de l'épisode du sacrifice de son fils unique. Elle déclare alors Baouli, ce qui signifie « l'enfant est mort », d'où le nom Baoulé. Les femmes ont toujours joué un rôle central dans la société Baoulé. Des femmes deviennent même parfois chefs de village et à Sakassou, fief du royaume Baoulé, le palais est ainsi occupé par une reine, Akua Boni.
Donc au niveau de la culture, en tout cas, des choses vraiment intéressantes et notamment une fête qui s'appelle la fête Pakinou, qui est une fête célébrée à Pâques dans les villages pendant 3 jours, du vendredi au dimanche. Donc ça se déroule en plusieurs phases avec la première phase où toutes les personnes qui sont parties à l'étranger donc reviennent dans leur village d'origine. Une autre phase où en tout cas c'est la phase plutôt des palabres où on va tous se raconter un peu nos histoires et se parler. Et on finit par une fête souvent en plein air où on exhibe tous les masques qui ont été confectionnés toute l'année. C'est une grande occasion. Alors les masques baoulés, c'est des masques souvent en forme de tête de buffle surmontés de cornes et avec donc les couleurs donc des baoulés qui sont rouge, blanc, noir. Donc il y a beaucoup de danses en tout cas chez les Baoulés. On va juste vous en citer une, donc la plus connue, parce qu'il y en a au moins 4 ou 5. Et la danse la plus connue, c'est le Goli. Le Goli en fait remplace peu à peu toutes les autres danses masquées, qu'elles soient sacrées ou de divertissement. Pour la musique, donc la musique vocale baoulée se caractérise par sa polyphonie vocale. Donc en fait, c'est des techniques de différentes tierces parallèles et un genre de style où il y a des questions-réponses. Et enfin, pour l'artisanat, faut savoir que les baoulés donc sont d'habiles sculpteurs et tisserands et aussi orfèvres. Donc les baoulés construisent des objets emblématiques de l'artisanat de la Côte d'Ivoire, des bijoux, notamment de l'or de toutes sortes. D'ailleurs, les baoulés vouent un culte à l'or, qui est le symbole d'héritage et d'opulence, de pouvoir. Ils sont aussi d'habiles sculpteurs, mais surtout, là où ils sont vraiment très connus, c'est pour leurs pagnes. Les pagnes baoulés sont très prisées par leur qualité et leurs motifs. Et d'ailleurs, en 2019, l'État ivoirien a lancé le processus de reconnaissance des pagnes baoulées en indication géographique protégée. Voilà, on espère qu'en tout cas cette présentation vous aura plu. Et puis on espère vous retrouver peut-être en Côte d'Ivoire un jour avec nous.
Je ne suis jamais allée à Bruxelles. Mais dites, qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles? La Belgique, ça me rappelle les vacances scolaires chez ma grand-mère, mon pays d'origine. Je me souviens surtout de la nourriture, de la pâtisserie que l'on mangeait en grand repas de famille. Tout d'abord, les petits déjeuners de ma grand-mère à base de spéculoos, biscuits sucrés à base de cassonade belge et bien sûr les fameuses gaufres de Liège. Je me rappelle des fameuses tartes au fromage blanc que l'on servait à la fin du repas, mais moi je préférais le riz au lait et la tarte aux abricots. Ma famille belge avait encore des restes de tradition catholique et tremper une tranche de pain dans de l'eau bénite qu'il ne fallait pas toucher. Sauf que moi, toute petite, je l'ai mangée. Pardon, mamie, j'avais faim. Une fois arrivée en France, j'ai découvert Jacques Brel sur les cassettes de ma marraine qui me redonnait le goût de mon arrière-pays. J'espère qu'un jour, j'y retournerai voir de la famille. Un cousin pourrait m'y emmener et manger quelques fricadelles. Quelle légende il y a autour de ces fricadelles. Et pour stopper les racontars, je vous livrerai enfin en direct. Et c'est pour Artodidacte, sa composition. C'est composé de viande séparée mécaniquement de poulet, de restes de viande de porc et de cheval. Des liens, des pies, de chapelure pour la panure, d'exhausteurs de goût et d'autres additifs. Je vous dis au revoir en français et en wallon. Au revoir.
Ses souvenirs belges. Une chanson de Midnight Oil, Beds Are Burning. Vous allez maintenant entendre une autre figuration de l'étranger.
Tout d'abord, c'est une icône culturelle et artistique, la reine des années folles. Joséphine Baker arrive à Paris en 1925 et c'est la révélation. Son charme, sa grâce, sa liberté corporelle et son humour séduisent un public français avide d'exotisme et de nouveautés. Le fameux numéro de la ceinture de banane au théâtre des Champs-Élysées fait d'elle une icône des cabarets parisiens. D'autre part, elle est aussi rapidement devenue la muse de l'avant-garde. Elle inspire Picasso, Cocteau, Le Corbusier et bien d'autres. Elle incarne une forme de modernité, de transgression et la libération sexuelle à une époque encore très corsetée. Elle est aussi mue par un engagement politique et humanitaire très important. Reconnue résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker utilise sa notoriété pour aider la résistance française en servant d'agent de renseignement, en cachant des messages dans ses partitions, en transportant des documents secrets. Elle est décorée de la Croix de Guerre, de la Médaille de la Résistance et fait chevalier de la Légion d'honneur par le général de Gaulle. C'est une militante antiraciste et humaniste. Engagée aux côtés de Martin Luther King, elle prononce un discours à Washington en 1963. En France, elle adopte 12 enfants de toute origine, qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel, pour démontrer la possibilité d'une fraternité universelle. C'est un symbole pour la République, une femme noire au Panthéon. En 2021, Joséphine Baker devient la première femme noire à entrer au Panthéon à Paris. Ce geste fort la consacre comme un symbole républicain de courage, de liberté, de diversité et d'engagement. C'est aussi un pont entre culture et mémoire. Son image reste vive dans la culture populaire avec les spectacles, documentaires, hommages artistiques, rues à son nom. Elle incarne une France ouverte, métissée, résistante et joyeuse. Joséphine Baker est une étoile du music-hall, devenue héroïne de guerre, militante antiraciste et mère universelle. En France, elle représente l'alliance entre l'art, l'audace, la liberté et les idéaux humanistes.
Rebonjour à tous, voilà c'est Alice. Là je vais vous raconter une histoire qui est vraie et qui m'a beaucoup, même profondément touchée. Alors, il s'agit d'un mauvais comédien blanc en mal d'inspiration qui, dans les années 1828, va voler la chanson d'un petit garçon noir handicapé qui va lui permettre de faire fortune. En fait, pour vous expliquer, dans la tradition africaine, il existe des animaux farceurs. Ici, il s'agit du corbeau. Et corbeau, pourquoi ? Parce que ce sont des oiseaux qui finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent grâce à la ruse. Et en fait, c'est le cas du corbeau particulièrement populaire chez les Yoruba. Alors, ce corbeau importé aux États-Unis par les esclaves noirs gagne un prénom, Jim. Jim le corbeau, traduction en anglais Jim Crow. Un jour de 1828, un certain Thomas Rice, acteur et chanteur blanc, se produit dans le Kentucky. Pendant une promenade dans les rues de Louisville, il voit un garçon noir mal habillé et infirme qui chante la chanson de Jim Crow. Il est fasciné par ce qu'il entend et la réaction du public, qui est enthousiaste. Donc il retourne en tournée et vole cette chanson. Il se produit jusqu'à New York. Le succès est garanti pour cet homme avec cette chanson qui ne lui appartient pas, ce qui en fait un homme riche. Cela passe par mettre du cirage sur le visage, s'habiller de haillons et reproduire le chant et la danse du jeune infirme. De cela naîtra un genre musical, le minstrel show, c'est-à-dire des comédiens blancs se passant le visage au cirage, chantant et dansant comme les noirs. Alors, à cette époque, la vie des noirs dans les plantations sudistes était tournée grossièrement en dérision. Cela réjouissait beaucoup les spectateurs blancs. Le portrait de l'esclave était peu éloigné de celui du clown de service, pour ne pas dire du parfait ahuri, on nomme ça par le blackface. Aux environs de 1870 aux États-Unis, il vaut mieux être urbain que campagnard, propriétaire que prolétaire, protestant que catholique, anglais qu'irlandais, irlandais qu'indien, indien que noir, noir libre qu'esclave.
Après cette description saisissante qui rappelle des phénomènes d'actualité, voilà une pause poétique.
À chaque pas où je me promène sur ton visage, j'y trouve un nouveau langage. D'une neige immaculée pleine de douceur, d'un sable caramélisé par le soleil, d'une pivoine rougeoyante, d'une pierre précieuse couleur ébène, d'une prairie de feuilles de blé ensoleillées. Toutes ces couleurs qui t'habillent font de toi une femme arc-en-ciel. N'oublie pas que ces couleurs représentent la force de ton cœur pleine d'ardeur.
Et pour conclure cette émission, nous allons vous donner quelques actualités de la psychiatrie.
Pour suivre quelques actualités en rapport avec la psychiatrie, la santé mentale, en cette belle année Grande Cause Nationale Santé Mentale 2025. Tout d'abord, un premier rendez-vous le 18 juin, rendez-vous à l'Assemblée Nationale. C'est un collectif qui s'est formé en 2019, qui a décroché ce rendez-vous avec des députés, qui travaillent dans le cadre peut-être d'une future loi. Le collectif s'appelle le Printemps de la Psychiatrie. Il s'est constitué en 2019. Il est composé de soignants, de patients et de familles. On espère que cette rencontre avec les députés va déboucher sur des choses concrètes, en lien notamment avec les abus de contention, d'isolement, et surtout, une fois de plus, faire entendre le respect de nos droits et de notre dignité. Après, il y a aussi à Saint-Alban-sur-Limagnole, lieu un peu bien ancré dans la tradition de la psychothérapie institutionnelle, Saint-Alban-sur-Limagnole, les rencontres de Saint-Alban qui ont lieu tous les ans. Cette année, c'est le 20 et 21 juin. C'est un endroit où tout le monde peut venir prendre un peu de l'enseignement, des références. Et puis sinon, en octobre, comme tous les ans à Reims, on organise la semaine de la folie ordinaire, SDLFO, dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, avec deux rendez-vous importants. Le mercredi 15 octobre au Chemin Vert à partir de 17h30, une grande soirée qui sera animée par les participants aux différents ateliers, thérapeutiques ou pas, du centre de jour, de l'intra-hospitalier et de, d'autres endroits, y compris à FIM. Et puis ensuite, il y a l'exposition à la Maison de la vie associative qui se tiendra du 6 octobre au 18 octobre. Et puis voilà.
Quoi? Quoi? Orthodidacte? Exact.
Orthodidacte, c'est des contracts.
Orthodidacte, c'est des contracts.
Grâce à Orthodidacte, on a la patate.